Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Merci d'avoir toqué à la porte de la maison de parents zen. Installez-vous dans ce petit espace douillet de parentalité zen et décomplexée. Allez, accueillons notre invité, un expert qui aura les bons mots pour adoucir nos petits mots de parents.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir gourmand d'accueillir Angèle Ferremag, qui est chef et naturopathe, créatrice de la Guinguette d'Angèle, un service de traiteur et de restaurant éthique, bio, sans gluten, sain, fondée sur les principes de la naturopathie. Et Angèle est aussi auteure de livres culinaires. Elle nous réserve d'ailleurs une petite surprise dont elle va nous parler tout à l'heure. Bonjour Angèle.
Bonjour Nathalie.
Alors aujourd'hui Angèle, pourquoi j'ai pensé à toi? Eh bien tout simplement parce que j'ai un papa. On a souvent des mamans, mais là aujourd'hui c'est un papa qui s'appelle Paul, qui est le papa d'une petite fille qui s'appelle Clémence. Et Clémence veut devenir chef. Alors elle n'a que 10 ans. Le papa de Clémence pense que c'est un petit peu tôt pour décider de son métier. Et moi, en fait, je pense que c'est important de ne pas briser les rêves de métier, les rêves tout court d'un enfant ou d'un ado quand il commence à avoir une véritable envie qui se dessine. Alors, j'avais envie de t'en parler, de voir comment, à ton avis, Paul pouvait à la fois encourager sa fille, la guider, sans non plus l'enfermer dans quelque chose parce qu'elle peut avoir encore plein d'autres rêves. Donc voilà, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cette idée de transmission? Comment est-ce qu'on peut montrer le chemin à une petite fille de 10 ans qui rêve, comme toi, de devenir chef?
Je trouve que c'est un très bon sujet, Nathalie, parce que je suis d'accord, en fait, il faut surtout pas brider les enfants, il faut surtout pas projeter nos inquiétudes d'adultes, de parents, que ce soit financières, d'insécurité, de masse de travail, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a en France une sorte de jugement de valeur un peu tacite qui oppose les études supérieures, les grandes études, à l'artisanat ou les métiers manuels. Et c'est pour moi une hérésie parce que c'est une sorte de snobisme mal placé qui dirait que l'un est mieux que l'autre, et c'est absolument faux. Pour moi, il y a rien de mieux que de faire ce qu'on aime, et peu importe ce que c'est, on vit notre métier tous les jours, donc il faut que ce soit un bonheur et pas une contrainte. Et je pense aussi qu'il faut donc ça c'était une petite aparté pour dire à quel point le travail qu'on aime est important. Les petites formations avancées qu'on commence à 14 ans sont souvent négligées par rapport au bac ou aux études supérieures, alors qu'en fait c'est très beau au contraire. Et puis d'ailleurs, moi je fais l'expérience avec tous mes amis qui ont fait des grandes études qu'on trouve pas spécialement plus de boulot, on gagne pas spécialement plus d'argent. En fait, quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien, et si on est bon dans ce qu'on fait, on brille, que ce soit être électricien, jardinier, chef d'entreprise, en fait, peu importe, quand on aime ce qu'on fait, c'est vraiment le secret pour non seulement vivre une vie agréable, parce que c'est quand même au moins 8 heures par jour son travail, et en plus le faire bien, faire quelque chose de qualité. Bon voilà, ça c'était une aparté, je pense qu'on partage le même avis là-dessus. Donc par rapport aux enfants, je pense qu'il faut être très attentif à son enfant, essayer de le comprendre, et puis de l'entraîner par le jeu, notamment, pour moi c'est vraiment le secret, dans ce qu'il aime ou pourquoi il est naturellement doué, sans le forcer parce que ça peut dégoûter, mais il faut soutenir les passions. On est trop souvent bridé, et c'est d'ailleurs pour moi pas du tout un hasard que les enfants soient si bien dans la nature, si heureux au contact du sable, de la terre, peu importe, ils sont Et en fait, ils sont dénués de toutes nos projections d'adultes, encore une fois, se salir, se faire mal, se faire piquer, tomber et tout. Et ils sont dans la découverte pure, dans l'émerveillement de tout. Et je pense que l'être humain est fait fondamentalement pour ressentir cette joie, cette connexion à la nature, et que malheureusement, on nous déracine trop tôt. Et donc déjà, voilà, le soutenir dans ce qu'il aime, l'accompagner, et puis aussi regarder son enfant avec, avec humilité, parce que moi j'apprends tous les jours de mes enfants. En fait, c'est pas parce qu'on est plus grand, qu'on a plus vécu, qu'on a plus été modelé, qu'on connaît mieux. En fait, ils nous apprennent énormément, et cette histoire de connexion avec la nature, moi, quand je le vois avec mes filles, elles m'apprennent, en fait. Elles me réapprennent à dire « Waouh, un papillon, oh là là, la couleur, qu'est-ce que ça sent bon, tout ça. » Enfin, c'est quelque chose qui est tellement précieux, en fait. L'émerveillement et la passion, tout simplement.
Mais tu as raison, tu sais ce qu'on dit, souvent on parle des adultes en disant, c'est une forme de sagesse un peu bouddhiste qui est à l'origine de cette phrase, qui est de dire « Non, c'est pas que vous ne savez pas, vous avez juste oublié. » Et en fait, c'est ça, c'est que les enfants nous reconnectent à ce que l'on a oublié, en fait. Et cet émerveillement, cette joie, on les a encore au fond de nous, mais c'est un petit peu pollué par le mental, par la pression sociale, par tout un cadre qu'on s'est imposé, qui est venu un peu nous couper de cette nature, de ce lien avec la nature que tu décris si bien.
Et pour revenir à la cuisine, donc à cette petite Clémence, donc si la passion de l'enfant, c'est la cuisine, je pense qu'il faut parfois... encore une fois, ces fameuses contraintes d'adultes, les mettre de côté et laisser son petit en mettre partout, faire des gâteaux dégueux, salir la cuisine, et même si ça veut dire l'aider à ranger après, faire des machines, perdre un peu de temps et puis gâcher parfois un peu et tout, bah, je pense que c'est vraiment important de le soutenir, de l'accompagner et sans le brider. Et c'est vrai que ça peut être un peu stressant en tant que parent, on peut se dire non mais à 10 ans elle peut pas connaître son métier quand même, donc c'est vrai, peut-être qu'il faut expérimenter plein d'autres choses, mais en tout cas pas essayer de la forcer à faire quelque chose qui est pour nous bien mais qui ne le sera pas spécialement pour elle, donc voilà. Et puis évidemment rencontrer des professionnels, je pense que c'est une bonne idée, donc aller voir ce que c'est aussi concrètement, donc pas pour montrer qu'en vrai c'est beaucoup plus dur qu'on ne le pense, que les horaires sont pas possibles, qu'il y a tout un côté administratif embêtant, nanana. Pas du tout pour ça, mais pour qu'elle ait une expérience agréable, en fait.
Rencontrer un professionnel, c'est de la transmission, parce que qui mieux qu'un professionnel va parler de sa passion, puisqu'il vit autour de sa passion.
Évidemment. Évidemment. Et puis aussi, je pense que c'est génial de voir aussi, parce qu'on se projette, adulte ou enfant, souvent des idées sur les métiers des gens, etc. Et de voir comment c'est vraiment cet univers de cuisine, c'est tous ces produits qui arrivent dans les cagettes, les odeurs, les fournisseurs, tout ça. Enfin, c'est des choses qu'on ignore peut-être quand on pense à ce métier, qui sont aussi géniales. Et d'après moi, en fait, on devrait commencer à faire des stages dès 8 ans, aller passer une journée dans tous les corps de métier qu'on aime pour palper un peu les ambiances aussi.
Ah oui, je suis tellement d'accord avec toi, parce que les fameux stages de découverte de l'entreprise ou de découverte d'un métier sont un peu tardifs, c'est en troisième en général. Et alors toi, justement, on parle de transmission. Alors j'ai deux questions là, que j'ai envie de te poser. Toi, tu as deux petites filles. Qu'est-ce que c'est pour toi la transmission ? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait spontanément, naturellement ? Est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses quand tu es avec tes filles ?
Mais c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. Et d'ailleurs, quand j'ai vu, parce que je n'ai pas appris avant que j'avais d'abord une fille et après deux filles, j'ai été un peu prise d'une sorte de stress, parce que je me suis dit oula, tout d'un coup je suis un exemple, en fait, il faut que je fasse attention et tout, et bon, tout ça c'est un peu dissipé. En revanche, je garde vraiment comme point d'honneur la transmission. C'est quelque chose qui est parfois mal fait, qui a par exemple été très mal fait dans ma famille, la transmission de certaines passions qui a été mal fait, et donc pour moi c'est très important non seulement de transmettre évidemment sa passion, mais aussi tout ce qu'on est, en fait, tout ce qui nous anime, tout ce qui nous font plaisir, donc que ce soit la randonnée, les plantes, bon, je pense un peu à ce que j'aime moi,
oui.
La méditation, comme toi Nathalie, parce qu'il n'y a pas que les parents qui transmettent aux enfants, il y a aussi les enfants qui transmettent aux parents, d'ailleurs.
C'est vrai.
Et donc ça, en fait, je trouve que la vie passe vite et puis on est souvent pris dans notre quotidien et tout, mais parfois je trouve ça très important, et pour moi je me suis donné comme une mission de parfois m'arrêter, prendre le temps pour expliquer avec des mots qu'elles comprennent pourquoi j'aime ça, qu'est-ce qu'il y a de génial qui me plaise autour de tout ça. Après, ça leur parle ou pas, ça les suivra ou non, mais en tout cas moi, essayer de parler de ce que j'aime et de le transmettre, je trouve que c'est fondamental.
qu'est-ce que c'est pour toi justement bien transmettre? Ça passe par ce temps que tu prends avec elle, ce dont tu viens de me parler?
Bah c'est pour moi c'est la clé. C'est la clé parce qu'en fait on peut travailler énormément toute sa vie pour ses enfants, pour leur transmettre des maisons, de l'argent, un patrimoine ou peu importe. C'est pas ça la transmission. Pour moi la vraie belle transmission c'est le temps en effet. C'est du vrai temps de qualité. C'est offrir pleinement sa personne. Et d'ailleurs, c'est souvent les cadeaux d'anniversaire qui sont les plus beaux quand
Bien
on offre
sûr.
De soi. Quand on n'offre pas ni un objet ni quelque chose qui peut s'acheter, mais qu'on offre du temps. On va accompagner la personne dans tout ce qu'elle aime. Enfin, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner, je pense. Et même du temps, même je pense à l'humanitaire, tout ça, il n'y a pas que l'argent, en fait. Donner de soi, c'est encore plus. Et en fait, ce qui est beau dans ça, c'est que c'est enrichissant pour soi de donner. C'est vraiment une situation gagnante. Pour ça aussi, que c'est très important pour moi que dans mes cuisines de la guinguette, les filles soient bien, que ce soit agréable pour elles. Donc, on fait des cours de Zumba toutes les semaines. Il y a la musique à fond. J'essaie de faire en sorte qu'elles soient à l'aise, qu'elles soient heureuses, d'être dans un univers où elles ont accès au jardin, enfin, qu'elles puissent faire des pauses au soleil, tout ça. Et en fait, pour moi, l'état d'esprit dans lequel, mais en fait, c'est valable pour tout. Évidemment, dans la cuisine, c'est encore plus important parce que, les gens vont se nourrir et donc, pas simplement nourrir par des protéines, des lipides, des glucides, mais on nourrit son âme aussi, on se nourrit d'un moment, d'un instant. Enfin, pour moi, l'énergétique dans l'alimentation est vraiment importante. Mais en fait, dans tout ce qu'on fait, l'intention derrière est tellement importante. Un cadeau incroyable, mal donné, vaut rien, en fait. Alors qu'une petite brindille de lavande ou de verveine quand c'est offert avec passion, c'est magnifique.
Oui, avec le cœur. Et en fait, c'est déjà une forme de spiritualité en réalité. C'est on met un peu de soi, un peu de son âme dans ce que l'on donne. Et ça, je suis certaine que la cuisine, c'est quelque chose de spirituel. Il y a quelque chose d'ordre spirituel quand on cuisine. Parce qu'on donne de soi, tu as mis ce mot intention, on pose une intention. Et c'est ce qui donne toute la valeur en fait à ce qu'on prépare, à ce que toi tu peux préparer dans tes guinguettes et seul ou avec ton équipe.
Et d'ailleurs, je trouve qu'au Japon, on sent beaucoup ça, cette espèce de... Les gens, peu importe le travail qu'ils font, j'ai l'impression, en tout cas, c'est l'expérience que j'ai ressentie, font les choses bien, que ce soit nettoyer des toilettes publiques ou évidemment les chefs de restaurant ou valider un ticket de métro, peu importe, ils sont dedans, en fait, ils sont dans l'instant présent et dans l'intention, et je trouve que ça change tout. Évidemment, il n'y a pas que du bon dans toute cette philosophie. N'empêche que c'est très agréable. Quand on fait bien les choses, quand on les fait avec intention, ça change tout.
Oui, alors je vais te raconter une anecdote d'un scientifique que j'ai interviewé récemment et qui me disait que lui, à une époque, il formulait des crèmes. Il travaillait dans la cosmétique et il disait à ses équipes, lorsque vous préparez votre émulsion, souriez, parce que votre sourire va tomber dans la crème, il ressortira sur les joues des femmes qui utiliseront vos crèmes. Et j'ai trouvé ça génial, et ça pourrait s'appliquer à ta cuisine.
Ah, ça, c'est très joli. Ah oui, je suis complètement d'accord.
En parlant de sourire, comme tu es quelqu'un d'extrêmement souriant et solaire, on imagine aussi la petite Angèle. Comment elle était, la petite Angèle? Est-ce qu'elle cuisinait déjà? Est-ce qu'elle mettait ses doigts dans la mousse au chocolat? Quel était ton rapport, toi, enfant, avec la cuisine?
Ah là là, bah déjà, j'avais un rapport très, très, enfin, j'avais déjà un rapport très fort avec la nature, évidemment. Tout pour moi était passionnant et comestible, jusque même au ver de terre, apparemment. J'étais très petite, mes parents continuent de me raconter cette histoire dans les repas devant tout le monde. j'ai très tôt développé, j'avais des goûts d'adulte alors que j'étais petite. Donc, j'ai grandi rue Daguerre, là où il y a aujourd'hui mon atelier. Donc, je mangeais très très tôt des huîtres, du boudin, des bulots, de l'andouillette, et puis tous les légumes verts, les brocolis, les épinards, tout ça, pour moi, c'était un délice. Et c'était impossible pour moi de manger une knacki ou une, une barre chocolatée ou des céréales pour enfants et tout ça, c'était vraiment pas possible du tout. Donc, quand je mangeais à la cantine, je jeûnais, je ne déjeunais pas, il n'était pas question. Le pain trop blanc, tout ça, c'est marrant parce que je me suis mise à aimer les cochonneries beaucoup plus tard. Petite, vraiment, j'avais des goûts. Le seul truc industriel que j'adorais, c'était les cordons bleus que je mangeais chez une copine. Mais le fait que mes goûts étaient assez aiguisés, ça amusait les parents de mes amis ou les amis de mes parents. Et donc, j'ai été soutenue assez tôt dans cette voie. Et ma mère me faisait déjà des tests pour reconnaître les différentes variétés de pommes de terre, de courges. Juste au goût, elle me faisait reconnaître. Et bon, je faisais aussi des plats complètement dégueux en mélangeant tout. Mais disons que les adultes, un peu amusés peut-être, m'ont beaucoup, beaucoup aidée en fait.
Donc, tu vois, ça, c'est de la transmission, ce que tu me décris avec ta maman qui te faisait découvrir différentes sortes de courges, de pommes de terre. C'est déjà une forme de transmission,
bien
en fait.
Sûr, hein, oui, complètement.
Elle a éveillé ton goût aussi de cette façon-là.
Ah, mais énormément. Et puis aussi, elle me valorisait beaucoup. Enfin, je ne sais pas comment dire, mais je vois parfois des parents... dénigrer un petit peu les enfants comme si oh là là bah oui non mais lui il fait n'importe quoi machin, et en fait là c'est comme si bon ma mère elle nous met vachement sur un piédestal mes frères et moi, mais c'est comme si en fait elle honorait le fait que j'aimais la cuisine et elle le mettait en avant, et c'est quelque chose qu'elle enfin ça bien sûr c'est, elle m'a transmis, elle m'a beaucoup aidée, elle m'a aidée aussi à avoir confiance en moi. Parce que me donnant cette connaissance, m'offrant ce savoir, c'était aussi un super bagage, quoi.
Oui, tu sais, quand je t'entends dire honorer, c'est très beau parce qu'en fait, on devrait, en tant que parent, honorer l'enfant qui est le nôtre, en fait, parce que c'est un cadeau de la vie. Et quelque part, en honorant la petite fille que tu étais autour de ses goûts, sa personnalité qui commençait à se dessiner, Elle honorait l'enfant que tu étais dans sa globalité. Et c'est ça le plus beau cadeau que les parents peuvent faire en termes de transmission, c'est de donner leur amour, bien sûr, la confiance, mais avec cette espèce de respect qui est un respect mutuel, parce que souvent, on demande aux enfants de respecter les parents, et les parents oublient un petit peu que c'est dans les deux sens que ça fonctionne.
Et exactement, et puis on revient aussi à cette notion d'exemplarité.
Ouais.
On ne peut pas demander à un enfant de faire quelque chose qu'on ne fait pas. On ne peut pas dire en hurlant à un enfant d'arrêter de hurler, par exemple. C'est ridicule.
C'est tellement logique, bien sûr.
Bah oui, évidemment.
Alors, en parlant d'exemplarité, de chemin à suivre, j'aimerais vraiment que tu nous parles de ta toute fraîche actualité. On est dans la transmission, là, Angèle. Hein.
Ah bah oui, exactement, on est complètement dans le sujet, dans la transmission et puis dans les enfants aussi, parce que je viens de finir avec Marabout un livre sur l'alimentation des enfants. Donc, des premiers repas jusqu'à plus tard, quand les enfants commencent à manger de tout, et des idées un peu ludiques pour leur faire manger plein de légumes et puis les aider à mettre la main à la pâte et tout ça. Donc déjà, c'était une expérience géniale de faire ce livre, parce que c'était chez moi, avec mes deux filles, et puis c'est Émilie Guelpa, la photographe qui a un blog qui s'appelle Griotte, qui a fait les photos, et même par rapport à l'histoire, c'est joli, parce que c'est elle qui a fait les photos de mon tout premier livre en 2014, et donc c'est tout à fait dans la continuité de aujourd'hui. Enfin, quand on s'est rencontrés, on avait la plein d'idées, plein de projets et tout, et puis on partait dans tous les sens, et puis là on se retrouve avec en étant toutes les deux mamans, et donc tout autour du shooting de ce livre, on était animés par des discussions de mères, justement, de transmission et de...
Ah, c'est joli cette fidélité et surtout ce côté un peu parallèle dans vos vies qui se rejoignent là maintenant de nouveau autour de ce livre.
Exactement, c'était très joli. On se rend compte aussi à quel point il y a mille façons d'être maman, il n'y en a pas une bonne.
Merci Angèle, et on se dit à très bientôt dans les pages de ton livre. Merci encore Angèle.
Merci Nathalie.
Merci d'avoir passé ce moment dans la maison de Parents Zen. J'espère que vous avez laissé la bienveillance et la zénitude de notre invité infuser en vous. Revenez quand vous voulez, abonnez-vous, écoutez-nous sur vos plateformes préférées ou sur le site de Podcasters Media. Et surtout, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. À dans 15 jours!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.